Voilà, on se retrouve dans Bouquins en Bretagne avec notre invité, second invité, c'est Jackie Blandeau. Jackie, bonjour, on va se tutoyer,
bonjour, hein,
puisque on a eu l'occasion de se rencontrer bien il y a sûr. Déjà quelques mois, puisque tu avais présenté ici en compagnie de Yannick Guilbeault ce livre, ce livre d'un collectif d'auteurs de Loire-Atlantique intitulé 30 communs, 30 communes, paru aux éditions du Petit Pavé, dont tu étais l'instigateur. On peut juste en dire deux mots.
Oui. Ben, j'avais initié un petit peu ce projet de réunir des écrivains de Loire-Atlantique en fait autour d'un ouvrage commun, hein, un petit peu dans l'idée de se faire connaître au départ, et puis finalement les droits d'auteur partent toujours d'ailleurs à une association caritative, donc notre combat maintenant, il est évidemment d'en vendre le maximum pour que l'association récupère le maximum de deniers. Donc c'est une aventure qui se poursuit, qui est bien partie, ça a été très bien médiatisé. Donc on est très content des premiers résultats.
C'est très bien. Alors avant de revenir sur ta dernière parution, on est à quelques jours de Noël, un conte qui s'intitule Le murmure de Noël. Tu peux nous dire, puisque tu as aussi à ton actif d'autres ouvrages parus il y a déjà quelques années.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai commencé en 2007, à être édité en 2007, par un premier roman, un roman contemporain, hein, qui s'appelle La Croix de Doubrac. L'histoire d'un quadragénaire dans un petit village auvergnat, en fait, qui je raconterai très brièvement l'histoire, hein, qui, de part de son passé, se retrouve un petit peu prisonnier de son passé, on va dire. Il y a eu des événements malheureux et il s'occupe d'une petite grand-mère liée à ce passé. C'est-à-dire qu'il lui fait ses courses, enfin, il s'occupe d'elle au quotidien. Et puis un jour, il y a quelque chose, un événement qui va venir bousculer un petit peu tout ça. Pour lui, ça va être le moment de se dire « Tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose de ma vie et essayer d'effacer un peu ce passé et puis aller vers l'avenir, sauf qu'il y a la petite grand-mère. » En gros, la question, c'est que faire de la petite grand-mère.
Et l'autre, c'est intéressant hein, ce que tu dis, puisqu'en fait, on va voir que dans le conte de Noël dont il est question aujourd'hui, on retrouve aussi ce côté très humain hein, qu'on trouve dans les ouvrages précédents.
Alors, le second roman, c'était la Gitane et le Vent. Donc, on part plus sur un polar, on va dire, sans policier. Donc là, brièvement aussi, l'histoire, c'est un gars qui hérite d'une maison dans un petit village pyrénéen, qui là où il s'attendait à trouver une vieille fermette, il va arriver dans un village qui est assez reculé, mais où on peut dire ça pue le fric à plein nez, on va le dire comme ça. Et par rapport au passé des villageois, il a du mal à comprendre d'où vient tout cet argent. Il se rend compte qu'il y a une cagnotte commune, il va faire la rencontre d'une gitane assez sensuelle qui tourne autour du village. Alors assez sensuelle, il y a une raison, hein, c'est pas gratuit, mais voilà, qui tourne autour du village, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Enfin voilà, il va mener sa petite enquête, il va s'imaginer un petit peu le passé du village, il va mettre en accusation les villageois, et ceux-ci vont lui dire « Écoute mon garçon, t'es bien gentil, mais nous on va te raconter ce qui s'est passé ». Donc voilà, c'est deux versions qui s'affrontent. C'est un roman qui peut se lire individuellement, mais qui a aussi une suite qui va paraître en mai 2012 aux éditions du Petit Pavé d'ailleurs.
D'accord, donc voilà, on aura la suite hein, de cet ouvrage. Alors là, tu as décidé, pour Noël, ça tombe bien, hein, c'est un conte de Noël, destiné, on va voir, pas seulement aux très petits, pas forcément pour les adultes, mais on verra qu'on peut très bien aussi être adulte et avoir une part de rêve en cette période de l'année. Ici, c'est plutôt tourné, tu m'as dit, l'éditeur a choisi plutôt... catégorie d'âge, les juniors peut-être ou...
Oui, alors disons que c'est le je sais plus, j'ai plus en tête exactement comment c'est noté sur la quatrième de couverture, mais il est noté à partir de 10 ans, c'est clair. Moi, dans ma tête, je l'ai quand même écrit pour des grands enfants et des adultes, c'est-à-dire qu'on j'utilise plus des mots d'adultes. Il y a quelques idées derrière tout ça, une certaine philosophie qui sera peut-être pas facilement appréhendable par un enfant. Donc c'est pour cette raison, en gros, qu'on l'a classé un peu plus haut pour les plus âgés. Maintenant, la FNAC l'a référencé donc en junior. Je pense sincèrement donc c'est ce que je racontais, moi, mon enfant qui a 10 ans, hein, l'a lu, ça l'a beaucoup intéressé. Maintenant, c'est un très bon lecteur, c'est clair. Et à 10 ans, c'est vrai qu'il a été plusieurs fois chercher dans le dictionnaire certains mots.
Alors revenons, on ne va pas raconter toute l'histoire de ce murmure de Noël. Un mot peut-être sur les éditions aussi qu'il publie.
Alors l'éditeur, là il y a toute une histoire aussi avec les éditions. Il y a eu en fait ce conte a été écrit, enfin est terminé depuis plus de 2 ans. Et il devait être édité par un premier éditeur qui, finalement, au dernier moment, a préféré laisser tomber. Alors, pour des raisons dont on pourra discuter, mais liées un petit peu à la religion. Donc voilà, c'était quelque chose d'un peu spécifique.
Dès qu'on parle de, oui, des contes de Noël.
Voilà, contes de Noël. Bon, c'est vrai que Noël, c'est quand même une fête religieuse.
Voilà, il y a le côté religieux et puis le côté païen qui
s'affronte. Exactement. Donc ici, dans ce roman-là, dans ce conte-là, je ne nie pas la religion et donc tout ce qui pourrait aller derrière. D'ailleurs, à un moment, j'évoque l'autre monde. Voilà, c'est dit très largement pour que, quelle que soit sa confession, on puisse s'y retrouver. Après, voilà, c'est pas un conte religieux, c'est clair. C'est un conte, qui est ouvert à tout le monde.
Donc t'as trouvé un.
Et donc, du coup, il a fallu que je fasse une deuxième recherche d'éditeur. Et puis, cet éditeur, l'Atterrissier, avait une collection, on va dire, spécialisée un petit peu dans tout ce qui est fantastique, alors, au sens très large hein, des choses. Donc voilà, bon, ils ont accepté de le prendre en charge. Donc, ma foi, l'aventure commence.
Alors, revenons-en. C'est l'histoire d'un SDF hein, qui raconte une histoire. Je vais te laisser l'expliquer. Et bien sûr, on donnera peut-être quelques grands points sur ce conte. Mais bien sûr, on va pas donner la solution.
Non. Je le présente souvent en demandant aux gens, justement, s'ils savent ce que c'est un murmure de Noël.
Très bonne question.
Voilà, oui. Je ne donnerai pas la réponse, ils l'auront en lisant le conte. Donc en fait, c'est l'histoire de Marin, oui, qui est SDF suite à un accident qui est survenu et qui a vu le décès de sa femme et de ses deux enfants, Kevin et Emma. Et ce monsieur, finalement, a pris la mauvaise habitude, on va dire, un petit peu de... Bon, il survit, on va dire, plus autre chose dans les rues d'une grande ville. Et pour rejoindre de temps en temps ceux qu'il aime, qui sont là-haut, malheureusement, enfin, qu'il pense être là-haut, il a pris l'habitude de retenir son souffle le plus longtemps possible. Comme ça, il a un petit peu l'impression de les rejoindre, quelque part. Ça dure quelques secondes, mais c'est pas grave, ça lui fait du bien. Et puis, un jour, alors que justement, il est en train de faire cet exercice, d'essayer d'arrêter de respirer, il croit voir un traîneau s'arrêter sur les toits d'une haute demeure bourgeoise. Donc voilà le début de l'histoire.
Et puis on va s'apercevoir qu'il aura ensuite une mission aussi à accomplir, hein, on va peut-être pas en dire trop, une mission à accomplir auprès du Père Noël, parce que le pays du Père Noël existe. Donc c'est vrai qu'on est à la fois un peu dans le rêve, dans le fantastique aussi. Hein.
Je pense que je l'ai écrit, alors je ne sais pas si je l'ai réussi, mais je pense qu'à aucun moment on ne sait vraiment si l'histoire est réelle, si elle est fictive. On ne sait pas trop, en fait.
Je crois que ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de réponse à cette question. Est-ce un rêve?
Non,
est-ce la réalité?
Je pense que c'est important.
Ce qui est d'ailleurs important de le dire.
Je pense que c'est important. C'est la part d'imaginaire de chacun qui rentre en jeu, justement, et... chacun voit les fêtes de Noël et le monde de Noël, entre guillemets, à sa façon. Donc, je trouvais que c'était une belle manière, justement, de laisser la porte ouverte un petit peu.
On va revenir, pas trop insister sur le contenu du conte, puisque justement, ce qu'on souhaite, c'est que les lecteurs et auditeurs le découvrent. Revenons plutôt sur la symbolique de Noël, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Noël, fête religieuse, Noël, fête païenne, Noël, les déballages de cadeaux, les vitrines remplies de cadeaux, les gens qui ont les moyens de se payer des cadeaux et d'autres moins. Donc, ça génère beaucoup de questions. Et pourtant, derrière, il y a aussi le rêve. Les enfants, quasiment tous, pour eux, la période de Noël, ça entraîne le rêve. L'existence du Père Noël. Même adulte, quelquefois, on aimerait bien, encore plus dans le monde actuel, oui. C'est peut-être de pouvoir basculer aussi dans le pays de Noël. Pourquoi pas, pour oublier un certain nombre de choses. Donc, cette symbolique Noël, pour toi, depuis ta tendre enfance, ça représentait quoi, et notamment dans ton enfance ?
Alors pour moi, c'est quelque chose de majeur, hein, de très très important. C'est vraiment une période de l'année que... on le disait tout à l'heure, je suis peut-être resté un grand enfant, on l'est peut-être tous, hein, au fond de nous-mêmes, plus ou moins. De la même façon que quand je vois quelques flocons de neige tomber, je ne sais pas si mon directeur suivra l'émission, mais il apprendra que dans ces moments-là, je ne travaille pas, je regarde par la fenêtre. Voilà, donc c'est pas grave. De la même façon, moi, voilà, l'approche de Noël, c'est quelque chose. Il y a une ambiance, il y a effectivement les lumières, et j'ai envie que ça perdure. J'ai sincèrement envie que ça perdure. Il y a, je dirais, 3-4 ans de ça. Avec mes enfants, on avait regardé, c'était le Pôle Express, donc avec Tom Hanks, un film d'animation, donc sur Noël même. On avait regardé ça avec les enfants le soir de Noël, et puis voilà, ça nous a mis dans l'ambiance, enfin, c'était super sympa. Et ben c'est vrai qu'après, le Noël suivant, je me suis dit, tiens, ben on va essayer de se mettre à, du coup, un autre. Et puis, ben, il n'y a pas grand-chose. C'est là que je me suis rendu compte que ben, finalement, l'offre est très limitée. L'offre audiovisuelle, hein, j'entends. Et du coup, quelque part, ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, mais pourquoi, à la limite, pas écrire moi-même un petit conte de Noël pour rester un petit peu dans cette symbolique, justement, de Noël, des lumières, de... Alors, sans parler de l'aspect religieux de la chose, parce que ben, c'est vrai qu'il y a les deux côtés. Hein. Il y a n'importe qui, Noël, c'est vraiment une fête religieuse avant tout, et je le respecte, il n'y a aucun souci. Et puis, ben, il y a aussi voilà, tout ce qui tourne autour que j'ai envie de conserver. Et donc, il y a 3-4 ans, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que non seulement il n'y a pas énormément d'offres audiovisuelles, mais que dans les rues, ben, finalement, les magasins commençaient à mettre moins de décorations. Alors, c'est vrai que c'est un coût, hein, tout ça. Donc, les décorations n'étaient plus les mêmes dans les rues, on en voyait de moins en moins, c'était moins joli, c'était moins. Donc, bon, j'avais l'impression un petit peu que cet esprit de Noël partait, s'en allait. Donc, bah voilà, je voulais un petit peu y mettre ma petite graine. Je suis très, très fier de l'avoir fait. Et je suis très heureux de voir qu'on recommence un petit peu à décorer les maisons. Il n'y a pas de problème écologique derrière, parce que maintenant, on a des guirlandes avec des LED qui consomment très peu. Donc, c'est parfait. Et j'habite sur Éric. Et c'est vrai que dans le nord du département, là, on commence à voir certains quartiers qui s'éclairent et qui sont magnifiques. Donc ça fait partie de la fête, tout ça.
Et comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi le moment de l'année où les gens se rencontrent. Un moment de l'année aussi où des gens sont malheureux. Il y a souvent des gens qui aussi, on va dire, quittent ce monde volontairement en ces périodes de fête parce qu'ils sont seuls. Et ça représente aussi des valeurs de solidarité. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ce conte, qui est d'ailleurs fort bien écrit. Merci. C'est valeur de chaleur humaine, d'insouciance aussi qu'on voudrait, qui est le propre de l'homme. Malheureusement, la société fait qu'on peut pas le vivre pleinement, je dirais, tout au long de l'année, qu'on va prendre cette petite période de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, où on essaye peut-être d'être plus proches les uns des autres. Et cette convivialité, cette chaleur à la fois humaine et chaleur dans les maisons, souvent en parallèle avec le froid de l'extérieur.
Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Daniel, et je te rejoins entièrement, moi, sur cette idée. Alors moi, ben comme beaucoup, hein, moi je suis certainement un idéaliste, hein, je voudrais un monde en paix et où tout le monde s'aime. C'est pas le cas, on s'en rend bien compte, c'est un monde qui est pas évident, qui est pas simple, qui est pas mal bousculé. Alors bon, dans notre pays à nous aussi, hein, on n'est pas à l'abri quand on entend dire que la France peut partir en faillite ou des choses comme ça, moi ça me tombe dessus, enfin c'est des choses que on pouvait même pas imaginer, mais... À côté de ça, je me dis qu'on vit quand même on fait partie des 1% de pays qui sommes les plus riches, donc voilà, on n'a pas à se plaindre non plus de notre sort. À côté de ça, effectivement, je pense que on a un peu perdu dans notre monde à nous les valeurs de charité, de respect des autres, de partage, des choses. Donc, et là, encore une fois, je vais pas opposer le côté religieux où, effectivement, il y a la religion qui tend à défendre ses valeurs. Et puis, ben, ça veut pas dire que de l'autre côté, on ne doit pas les défendre non plus, quoi. Voilà. Donc, moi, je mets un petit peu tout le monde dans le même panier à ce niveau-là. Et pourquoi pas, effectivement, sur une période de l'année comme ça, ben, essayer un petit peu d'aller vers les autres. Moi, c'est quelque chose qui m'est cher, que j'essaye dans mon quotidien d'appliquer. C'est pas toujours simple, mais voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que souvent dans mes écrits, on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit d'ailleurs que j'avais une écriture un peu féminine. Alors c'est peut-être ma corde sensible qui fait dire ça aux gens, mais c'est quelque chose qui est très important et que j'ai envie de défendre effectivement dans mes écrits. Tant qu'à faire, si mes écrits doivent servir à quelque chose, autant que ce soit à ça.
D'accord, le message est passé. Voilà. Raconte-nous un peu tes Noëls. On voit cette symbolique de Noël, bon, qui existe depuis la nuit des temps, hein, je veux dire. Il y a eu le côté religieux. Après, même dans les familles qui n'étaient pas pratiquantes, quand on n'avait pas trop de moyens, bon, ce n'était pas les cadeaux qu'on peut voir maintenant devant les sapins. C'était souvent un fruit donné. Mais chaque famille, même les plus modestes, ont toujours voulu quand même marquer le coup, oui. Notamment quand il y avait des enfants. Bien sûr.
Ça suffisait, effectivement. Alors, moi, je ne suis pas issu d'une famille très riche. Hein. Effectivement, on était plutôt très modeste que modeste. Cela dit, on n'avait pas besoin de grand-chose. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants n'ont pas plus de besoins. Moi, j'ai l'expérience avec mes propres enfants. Ils ont aujourd'hui 8 et 10 ans. Quand je vois le nombre de cadeaux qu'ils ont à chaque Noël par les oncles, les tantes, les grands-parents, etc., quand je vois, j'ai encore l'image, hein, à l'âge de 2-3 ans, de les voir s'amuser avec les cartons des cadeaux et le papier qui brillait plutôt qu'avec le cadeau. Enfin voilà, c'est un peu la symbolique aussi de se dire, on est dans un monde voilà, où finalement on peut faire plaisir avec peu d'argent, avec peu de choses. On n'a pas besoin d'avoir des superbes cadeaux.
La chose, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, des cadeaux, on en fait presque toute l'année.
Exactement.
Il y a les anniversaires et il y a des cadeaux à profusion partout. Alors que c'est vrai qu'à une certaine époque, même le fait, je dirais, qui n'a pas écrit au Père Noël, hein, aussi,
exactement, voilà,
ce qu'on retrouve dans le livre, et que c'était peut-être le seul moment de l'année où on espérait avoir quelque chose qu'on n'avait malheureusement pas toujours.
C'est vrai, on n'avait pas. Voilà, exactement. Et puis, ça fait partie du rêve. Moi, je me suis amusé avec ça, avec mes enfants, quand je me suis amusé. Ça fait partie, voilà, de la légende du Père Noël, légende ou pas, suivant les auditeurs. À mettre, voilà, sur la cheminée le petit verre à boire, et puis on mettait un ou deux bonbons, et on voyait que le lendemain, il restait effectivement, le verre était vide, et puis qu'il y avait les papiers des bonbons qui étaient restés. Je revois les visages de mes enfants, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Faites-le, il faut le faire. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Ce qui est étonnant, comme tu dis, c'est est-ce que justement, malgré cette profusion de cadeaux qui est à côté, dans certains endroits, on continue à perdurer ce côté très modeste de Noël, et effectivement, où il y a les parents acceptent de jouer le jeu, quoi.
Tout à fait. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'il faut continuer absolument. Enfin, il faut défendre justement cet aspect, je dirais, j'allais dire non lucratif. Alors, j'aime pas dire ça parce que voilà, un peu plus simple de Noël, parce que non seulement ça fait vivre l'imaginaire des enfants, ce qui est une très belle chose. Moi, je vais pas dire que j'ai des souvenirs de quand j'avais 3-4 ans, ce serait faux parce que c'est parti depuis bien longtemps, mais j'ai des sensations, voilà, d'avoir vécu quand même des choses un petit peu magiques là-dessus. D'avoir quand même l'arrivée de Noël, la nuit de Noël, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Voilà. J'ai toujours souhaité, on n'est pas dans une région où il fait très froid, on n'a pas toujours de la neige, c'est clair.
C'est rare. Oui.
Voilà, les quelques Noëls qui ont été entourés dans mon enfance d'un petit peu de neige, c'était magique. Il y avait vraiment ce côté magique un petit peu de... Donc, j'en reviens toujours à ce monde qui est un petit peu, même pour les enfants, hein, qui est très vite bousculé, on leur met plein de trucs dans le crâne à l'école, faut que ça tourne très vite, faut qu'ils apprennent très vite, faut, voilà, on est dans un monde rapide, toujours avec de la productivité, avec une petite période là qui fait du bien, où on peut s'arrêter un petit peu, repartir sur des valeurs un petit peu plus essentielles, et puis valeurs familiales aussi, hein, c'était, moi je me rappelle les Noëls de mon enfance, c'était l'occasion de réunir la famille, ce qui se fait peut-être moins aujourd'hui, je sais pas, j'espère que les gens perdurent un petit peu dans ces habitudes. Moi, je le souhaite, en tout cas.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, peut-être une chose qui réunit sans doute presque tous les hommes dans le monde entier, c'est qu'on a tous cru à un moment...
C'est vrai. C'est une très belle légende. Hein. Alors, il faut oublier là aussi tout ce qui a été construit autour, mais voilà.
Ce qui est pourquoi... étonnant aussi, c'est que très souvent, quand on est parent, justement, on perdure cette croyance, on la perpétue de génération en génération.
Et je pense que si on la perpétue, c'est justement parce que c'est une belle chose, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui nous a fait rêver, donc on a envie de faire rêver nos enfants aussi. Les faire rêver aujourd'hui, effectivement, c'est plus par les jeux, hein, ils en ont à longueur d'année, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc à la limite, avec cet imaginaire, avec cette idée que quelqu'un... Alors, avec les questions qui se posent, hein, comment le Père Noël il rentre quand il n'y a pas de cheminée, comment il passe par le conduit trop étroit. Après, il faut inventer. C'est là où il faut être chacun.
Il y a beaucoup de questions. C'est vrai qu'il y a un Père Noël unique, mais il a aussi beaucoup d'employés aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde sur Terre. Hein. Donc je rappelle, hein, c'est le Murmure de Noël aux éditions Terrissier. Hein, oui. que je vous conseille de lire, hein, c'est autant pour adultes que pour enfants, faire une petite pause au moment des fêtes et changer un peu de monde, c'est pas plus mal. Des projets, tu me l'as dit tout à l'heure, la suite de...
Alors ça, c'est déjà écrit, et alors là je m'attelle à quelque chose de complètement différent, c'est toujours un peu dans le même état d'esprit, hein, je dirais, je suis en train d'écrire un recueil de textes, pas forcément des nouvelles, il y aura des nouvelles, mais il y aura aussi des textes, basé sur la différence, basé en fait la phrase, attendez, il faut que je me rappelle exactement, c'est en gros que l'homme sera devenu adulte le jour où dans la définition du mot différence, il aura intégré la notion de tolérance, voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à écrire.
Ça, c'est un trait commun qu'on retrouve dans tous les ouvrages, même dans le conte de Noël.
Oui, tout à fait.
Voilà. Ouais. Merci, Jackie, puis joyeux Noël.
Merci à toi, Daniel. Joyeux Noël.
À bientôt.